À l'occasion de la Journée mondiale de l'eau le 22 mars et de la mobilisation internationale organisée les 25 et 26 mars prochains à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres, Prune te propose une immersion dans la manifestation d'octobre dernier à l'appel de Bassine Non Merci, les soulèvements de la Terre et plus de 150 organisations signataires. Retour sur ce mouvement de contestation contre des cratères plastiques devenus symboles de lutte pour la défense et le partage de l'eau et pour la protection de la biodiversité. Regards croisés, témoignages, grande marche vers la méga-bassine, le vent se lève dans les plaines de Sévrienne. Le bleu de l'eau, Sainte-Soline, c'est maintenant sur Prune 92 FM et prune.net.
Nous sommes à la conférence de presse organisée le mercredi 2 novembre en bordure de la méga-bassine.
Marion, Bassine, Non Merci.
On aura un temps de questions à la fin.
Donc Benoît Journet, porte-parole de la Confédération Paysanne 79. Donc effectivement, je suis là aujourd'hui pour représenter l'ensemble du mouvement de la du syndicat de la Confédération Paysanne qui a refusé de signer le protocole en 2000.
En marge des prises de parole, on revient sur le démembrement du réseau de tuyauterie.
Oui, j'étais là. Donc, vous savez qu'il y a une bassine qui est ici. Et ce qui va se passer, c'est qu'un peu partout, il y a des tuyaux qui passent. Et symboliquement, on a démonté un tuyau pour empêcher le remplissage de cette bassine. On est dans une situation, vous connaissez, vous en avez fait l'écho, on a une sécheresse sans précédent, une canicule sans précédent. Il est complètement immoral. Il est complètement immoral que cette bassine, parce que là, l'enjeu, c'est qu'elle soit terminée très rapidement pour qu'il puisse commencer à remplir. Et que Benoît Journet, le porte-parole de la conf, l'a dit, à l'utilisation des bassines pour l'agriculture, ça va représenter que 5% des paysans. 95% des paysans, comment ils vont faire? Donc, je crois que c'était vraiment symbolique, cette action-là. Il n'y a pas eu... Il y a juste un tuyau qui a été démonté. Je trouve que c'est quand même symbolique, comme on avait fait à la Cranche à Banc, comme on avait fait à un certain nombre d'autres endroits. Et on l'a fait de façon non cachée, c'est-à-dire qu'on l'avait annoncé qu'on le ferait.
C'est plus l'été indien, on est au mois de novembre, avec des nappes qui sont au plus bas, avec des rivières qui sont asséchées. On fait un projet comme ça, les maires, les élus, il n'y a même pas une réunion publique, on n'a même pas prévenu les gens. C'est honteux, honteux. On est dans du conflit d'intérêts. Ce n'est pas la magouille Sarkozy, hein. Il y a moins de pognon, mais c'est quand même des millions. Et c'est de l'argent qui est donné à quelques-uns pour nous empoisonner, pas pour nous nourrir, au détriment de tous les autres agriculteurs. C'est lamentable, lamentable. Que l'État a une attitude de mafieux.
Du coup, nous sommes mercredi.
Je suis présent depuis le début. Je n'ai pas l'impression d'être un écho terroriste. D'ailleurs, ce qui est quand même impressionnant, c'est-à-dire que bon, je suis paysan à la retraite, ancien porte-parole de la conf Nouvelle-Aquitaine. Ce qui est quand même intéressant, c'est que nous ne nous sommes jamais cachés. Parce qu'à la limite, le terrorisme se cache. Nous, on ne s'est pas caché et on a toujours assumé les gestes que l'on a fait. Donc je crois que là-dessus, ça change complètement la donne. Alors ce matin, il était prévu donc une conférence de presse de l'ensemble des organisations, donc les 150 organisations syndicales, des organisations paysannes comme la Confédération Paysanne, des organisations syndicales de travailleurs, je crois que la CGT Sud était là, et les associations environnementales, plus un certain nombre de gens du coin, plus donc Bassine, Non Merci. On a fait le point sur ce qui s'est passé ces trois jours-là. Et l'interpellation qui a été faite, c'est de dire que le dossier maintenant devient un dossier national. Et on demande donc à ce que ça soit Elisabeth Borne, donc Première ministre, qui reprenne ce dossier-là. Et que on demande à ce qu'il y ait vraiment un moratoire pour que vraiment il y ait possibilité de pouvoir reprendre toutes les négociations, parce qu'on ne peut pas continuer comme on est en train de le faire en ce moment. Ça ne peut pas continuer. Nous ne nous considérons pas comme des éco-terroristes, mais nous souhaitons vraiment que les discussions reprennent, qu'on fasse un moratoire sur ces bassins-là et qu'on reprenne ces discussions de façon très calme. Et on demande à ce que ce dossier soit maintenant traité au niveau national par donc la Première ministre. Alors pour votre gouvernance, la Première ministre a été présidente de région Poitou-Charentes, elle connaît très bien le dossier de l'eau, donc elle est en capacité de pouvoir reprendre ce dossier-là, parce que les gens qui en ce moment, qu'on entend le plus, que ce soit le ministre de l'Agriculture Frénaud ou le ministre de l'Intérieur, n'ont pas la capacité de pouvoir apporter une discussion, permettre une discussion où toutes les parties prenantes puissent s'exprimer. Ce qui se passe, c'est que c'est la quatrième manifestation et il y a toujours eu un accroissement de la population. Et ce qui est quand même intéressant pour la première fois ce week-end, c'est que le dossier est devenu un dossier national par la présence d'un nombre important de médias et qui ont essayé de démontrer, d'expliquer un peu ce que c'était ce type de développement agricole. Et je pense que pour la première fois, le dossier, c'est pour ça qu'on souhaite à ce que Elisabeth Borne intervienne et soit elle la maître d'œuvre des débats qui puisse se faire, c'est que ce débat, par vos présences, a permis de devenir un débat national.
C'est parti. Il y a les camarades de la CGT aussi qui sont très présents. Nous, on observe une chose qui n'est pas assez rappelée, je pense, dans les médias. On n'est pas là pour vous faire des reproches, mais quand même. La coalition, la mosaïque qui anti-bassine, elle regroupe des paysans, des associations naturalistes, environnementales, mais elle regroupe des partis politiques et des syndicats professionnels. C'est intéressant de voir toute cette mosaïque s'agglomérer et porter un tel combat, une telle lutte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en face de quelques décideurs, on a un panel représentatif de la société qui dit non à un modèle qu'on ne veut pas, qu'on ne veut plus. Nous, dans l'entreprise, on accompagne les travailleuses et les travailleurs, on se bat pour une meilleure répartition des richesses contre un modèle capitaliste qui détruit et casse l'emploi et les travailleuses et les travailleurs. Et là, c'est la même chose. On assiste à un accaparement de l'eau pour une minorité, par une minorité, vous l'avez bien expliqué. Et qu'est-ce qu'on fait des autres? Qu'est-ce qu'on fait de l'environnement? L'eau, c'est un bien commun.
Benoît Biteau, paysan, agronome et député écologiste au Parlement européen. Ça fait depuis 1999, moi, que je m'intéresse à cette problématique d'une autre gestion de l'eau sur le périmètre du Marais Poitevin, globalement. Hein. Là, on est sur le bassin versant qui alimente le Marais Poitevin. Et donc, j'ai pu construire une réflexion, une culture sur cette question de l'eau et faire le constat que cette logique basée sur le stockage de l'eau dans des bassines n'était pas les réponses qui étaient en adéquation avec les sujets sur lesquels on a rendez-vous avec l'histoire, sur le changement climatique, l'effondrement de la biodiversité, l'amélioration de la santé de nos concitoyens, parce que derrière ces retenues de substitution, on continue d'adosser les pratiques agricoles qui accélèrent le changement climatique, qui accélèrent l'effondrement de la biodiversité et qui ne vient pas au secours de la santé de nos enfants et qui met en péril des ressources vitales comme l'air qu'on respire à chaque instant, comme l'eau qu'on boit et qui nécessite donc de poser le débat, de replacer surtout ce débat dans un débat de société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle d'agriculture, le seul interlocuteur qu'on consulte, c'est le corporatisme agricole de la FNSEA. Sauf qu'aujourd'hui, quand on parle d'alimentation, quand on parle d'agriculture, quand on parle de climat, de biodiversité, de santé, on est sur des sujets qui nécessitent de replacer ces questions-là dans un véritable débat de société. Et c'est ça qu'on peut reprocher à ces retenues de substitution, c'est que malgré le fait qu'elles vont stocker un bien commun, ou un commun, moi je préfère parler de commun, qui s'appelle l'eau, malgré le fait qu'on va mobiliser beaucoup, beaucoup d'argent public dans la réalisation de ces équipements-là, eh bien, on n'a pas su associer suffisamment les citoyens dans le débat. Et donc là, on est vraiment sur une carence terrible de l'État. Et puis après, y a le fait que je suis élu, je suis attaché à la démocratie, à la République, à cette belle République qu'est la France. Et en tant qu'élu, moi, j'ai beaucoup de mal avec des décisions qui télescopent l'État de droit. C'est-à-dire qu'une préfète qui déclare par arrêté préfectoral que la manifestation est interdite, c'est pas ça l'État de droit. Une préfète qui autorise le début d'un chantier alors que des recours sont actuellement à l'étude au tribunal administratif de Poitiers, à la cour d'appel de Bordeaux. C'est pas ça l'état de droit. Et donc en tant qu'élu, et moi la définition que je donne de l'élu, c'est qu'il est garant de l'intérêt commun, qu'il est garant des politiques publiques, eh bien je considère que c'est notre place de dénoncer des stratégies qui ne respectent pas l'état de droit.
On avait sollicité les maires à l'époque sur le débat des OGM. Non mais c'est, moi je pense qu'il faut aussi le redire, c'est-à-dire que et le premier qui a pris un arrêté interdisant les OGM sur sa commune, c'était Jean-Jacques au niveau national. C'est Jean-Jacques qui l'a fait. Et c'est grâce à des gens comme ça qui se sont vraiment battus pour à ce que des arrêtés soient pris au niveau de chaque commune qu'en ce moment, en France, on n'a pas d'OGM cultivé. Donc,
déjà, merci.
Merci. Oui, mais on allait partir, nous. Il y a une grande agressivité en face. C'est peut-être parce qu'on a marqué des points, mais ça les rend nerveux. Et il en faut plus que ça. Oui, moi, comme dirait Benoît, la colère est mon carburant, donc... C'est ce genre d'agression, ce genre d'attitude, bon, c'est non seulement lâche, mais moi, c'est un encouragement, au contraire, à continuer. Moi, il y a 50 ans que je lutte contre la mise en place de ce modèle agricole qui a remembré, drainé, curé, défoncé les rivières, qui continue encore d'ailleurs. Empoisonner les sols, empoisonner les hommes, s'empoisonner eux-mêmes, foutu en l'air l'avenir, notre avenir, l'avenir des jeunes. Non, moi je suis effectivement, j'ai 71 ans, ça fait plus de 50 ans que je lutte. J'ai vu mon enfance partir en fumée au moment des remembrements, et ensuite j'ai été pendant pas mal d'années élu, j'ai été élu 31 ans, maire pendant 19 ans, vice-président de l'agglomération de Niort. J'ai vu comment au sein des conseils municipaux, au sein des élus, j'ai vu comment il existait des complicités, comment l'État couvrait des exactions et des projets, comment l'État pouvait soutenir des projets écocides comme celui des bassines. J'ai des enfants, des petits-enfants, et c'est vrai que cette manifestation du week-end dernier m'a redonné un peu le moral. J'ai repris espoir en l'homme avec la mobilisation de tous ces jeunes qui sont tous sauf des éco-terroristes et qui finalement nous posent la question de savoir « Mais bon Dieu, vous nous avez tout massacré, et quand est-ce que vous allez vous arrêter ?» C'est ça que... Moi, mon combat, il est là et il est autour de l'eau, évidemment, mais c'est là que je prends toute mon énergie, toute ma force. Et d'ailleurs, lutter, c'est vivre. Donc avec des combats comme celui-ci, j'espère bien vivre encore un moment. Mais son avenir même est en jeu à l'État. C'est vrai qu'ils peuvent très bien passer outre à nos appels, qui durent depuis plus de 5 ans sur ce dossier-là. Ils peuvent très bien dire on reprend le chantier, ils peuvent très bien dire on a raison, il n'y a pas de souci. Mais à ce moment-là, on remettra ça. Et si on remet ça, je vous assure que ce n'est pas le nombre de gendarmes qui nous arrêteront, bien au contraire. À chaque fois qu'on nous a envoyé davantage de gendarmes, à chaque fois on a été un peu plus nombreux. Le mépris, l'humiliation, c'est ça qui engendre la violence. Et si l'État veut rester sur cette voie-là, il a perdu d'avance.
Sur la suite, là, on va avoir une discussion entre nous, c'est-à-dire qu'on va envoyer un courrier donc, à Elisabeth Borne en lui disant, on demande, pour expliquer un peu ce qu'on a fait ici à la conférence de presse, pour demander à Elisabeth Borne ce qu'elle envisageait de faire. On lui demande donc d'ouvrir des négociations, vraiment sur le fond. Il y a vraiment un travail sur le fond, parce que comme ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est elle qui doit reprendre ce débat-là. Et nous, on va se rencontrer toutes les 150 structures, associations, syndicats et associations de citoyens. On va se retrouver pour voir un peu. On a demandé à ce qu'il y ait un moratoire, que les travaux ne reprennent pas et qu'on organise donc une réunion de concertation. Si les travaux reprennent, on envisage sûrement une action beaucoup plus importante encore que celle de la fin de la semaine.
Ben moi j'imagine la suite en me disant que finalement le message qui a été envoyé ce week-end par non pas ceux qu'on montre partout dans les médias, la dizaine de personnes qui peut-être ont été violents, mais plutôt les 8000 personnes plus silencieuses, mais qui ont envie que les choses changent, eh bien, j'ai l'espoir que leur message a été entendu et qu'enfin on fasse un temps mort et qu'on se pose et qu'on réouvre la discussion pour davantage de médiation, de concertation et de consultation des citoyens. C'est ça que j'espère. J'espère que ça aura pu au moins servir à ça. Donc les travaux n'ont pas repris aujourd'hui, c'est déjà un début de victoire, et j'espère qu'ils ne reprendront pas de sitôt, pas en tout cas avant qu'un moratoire ait été posé sur la pertinence de la façon dont on veut construire notre relation à l'eau. Et notre propos, c'est pas d'être contre l'irrigation ou contre le stockage de l'eau, mais si on le fait, on le fait bien.
Drainage, défonçage de rivières, forage ensuite à partir des années 80, et maintenant bassine. Quelle est la prochaine étape? Il n'y en a pas, à part dessaler l'eau de mer. Non, c'est fou, il faut arrêter ça.
Des fuites en avant, ça n'est que des fuites en avant.
C'est en Amérique du Sud, au Paraguay, que se chante ce rituel des origines du monde. Des sons qui viennent de l'infini, des notes tenues très longuement, comme un souffle qui n'en finirait pas, des rythmes qui se mettent en place, bref, une véritable composition. Un langage musical recherché pour un discours musical qui raconte les origines du monde.
Dernier détour dans le champ, en compagnie d'une militante, d'une habitante, d'un membre de la CGT et d'un ornithologue qui, comme l'oiseau, observe le monde depuis le haut de la tour Vigie.
Ah non, ben malheureusement non, parce que on a des, dans les familles, malheureusement, vu que c'était la Toussaint, et on avait des, dans les familles, ben, il fallait aller sur les tombes. Donc malheureusement, il y a 3 ans, j'ai perdu un fils accident de voiture dans 3 ans. Alors bon, ce qui fait que autrement, ben, je suis toujours partant pour toutes les luttes. Les luttes importantes, on trouve, parce que quand même. Et tout ce qui est bien, malheureusement, c'est bien le petit agriculteur, le petit, comme on disait Amel, le petit ouvrier, enfin. Ben, on est malheureusement tous dans la même galère. Hein. Puis à l'entrée, là, c'est le bouchon est enlevé et puis on coule. Hein.
Voilà. Moi, j'étais samedi à l'appel des organisateurs. Non, dimanche à l'appel des organisateurs. Je suis allée devant l'hôpital de Niort pour soutenir une des personnes qui était prise en charge pour des soins suite aux agressions des gendarmes la veille. Voilà. Et puis, on n'a pas eu trop de nouvelles, mais on était présents et c'était plus symbolique qu'autre chose. Et voilà, on était une trentaine de personnes sur place, voilà, dont d'autres ont décidé de rejoindre la préfecture après, mais ont été empêchés de s'approcher de la préfecture par des gendarmes, hein, comme partout d'ailleurs. Là, on a des gendarmes partout. Face à des gens qui sont complètement désarmés, qui n'ont que leurs jambes pour se déplacer et qui sont de tous les âges, hein, c'est tous les âges confondus, hein, c'est des gens qui se sont sentis responsables d'être présents pour défendre le bien qu'est l'eau, l'eau potable, hein, contre la pratique intensive de l'agriculture qui est aussi... Enfin, de toute façon, on est dans un programme démesuré. Et si la violence, elle est montée, c'est parce que y a les services de police ont généré, enfin, ont voulu presque générer ces conflits-là. Parce que les gens, ils n'y allaient pas dans un esprit de violence. Mais tout ça, ça aurait pu se faire dans le calme. On nous ouvrait les barrières, on nous ouvrait la route, et c'était tout. C'était tout. Ça s'arrêtait là. C'était déjà pour qu'on se rende compte d'une dimension qui est hors norme. Il faut que tout ça s'arrête. Et 1000 bassines en France, eh ben là, on n'a plus d'eau, ça c'est sûr, on n'a plus d'eau même pour se rincer les yeux. Voilà, on n'aura plus que les larmes pour pleurer.
Je pense que comme beaucoup de gens ici, j'ai des convictions écologistes assez fortes. Et sans être extrémiste, je suis complètement convaincu par le combat contre les bassines et contre l'accaparement de l'eau par une minorité. J'ai perçu que au niveau de l'utilisation de la ressource en eau, on a déjà des nappes phréatiques qui sont dans un état catastrophique et que le fait de continuer à pomper dans ces nappes en hiver ne va faire qu'aggraver le problème pour développer toujours plus une agriculture hyper intensive. Tourner vers l'exportation principalement de maïs et que donc ça va avoir des conséquences notamment écologiques assez fortes et notamment par rapport à toute la présence de la vie faune sur la zone, en sachant que il y a un certain nombre d'espèces d'oiseaux à caractère patrimonial qui nichent ou qui passent l'hiver sur cette zone. Voilà donc ce qui m'a convaincu à venir ici. En sachant que j'avais déjà participé à deux autres manifestations précédemment contre les bassines, à savoir Épane et Mauzé-sur-le-Mignon en fait. Alors, je ne suis pas là en tant que représentant officiel du groupe ornithologique des Deux-Sèvres, donc je parlerai juste à titre personnel par rapport à mon expérience de la zone. Donc j'ai travaillé il y a assez longtemps, ça fait une dizaine d'années, dans cette zone pour le suivi d'une espèce patrimoniale, donc le courlis cendré. Donc comme pas mal d'espèces de plaine, c'est une espèce qui niche au sol. Donc il y a un petit groupe nicheur dans le secteur, donc une population qui vit en colonie, on va dire, éclatée. Et donc c'est des espèces qui, lors des travaux agricoles au printemps, donc peuvent subir pas mal de dégâts. Donc soit par exemple les nichés qui sont écrasés au moment du passage des tracteurs. Voilà, la même problématique qu'on va retrouver sur l'outarde canepetière dans la zone, qui est donc l'outarde canepetière étant également un oiseau qui niche au sol et donc qui subit des dommages assez lourds suite au passage des machines dans les parcelles dans lesquelles il niche sur la période printanière et début de la période estivale. Voilà, et des espèces qui sont également sensibles à la problématique insecte, à savoir que pour le nourrissage des petits au printemps, ces espèces sont grosses consommatrices d'insectes et sous l'effet de l'agriculture intensive et notamment des néonicotinoïdes, il y a une grosse perte de la population d'insectes, une grosse diminution de la biomasse en insectes qui a été mesurée dans différentes études, dont une notamment réalisée ces dernières années par le CNRS de Chizé. Voilà donc un ensemble de raisons qui m'ont convaincu à participer à cette lutte. Voilà, donc pour revenir sur les espèces présentes dans la zone, donc je vais parler du courlis cendré, de l'outarde canepetière. Il y a également une espèce patrimoniale un peu plus discrète qui est présente davantage l'hiver, le hibou des marais. Donc c'est une espèce qui niche au sol, alors qui niche peu dans la zone, mais qui est présente l'hiver. Alors notamment autour d'ici, on peut la voir ponctuellement dans des champs de colza. Donc souvent c'est assez spectaculaire parce que c'est une espèce qui se cache beaucoup. Et parfois en marchant dans les parcelles, on a un oiseau qui se lève devant vous, sans faire aucun bruit, parce que donc c'est un rapace nocturne, donc il y a ce revêtement spécifique sur les ailes qui fait que quand il vole, on n'entend absolument rien. Et donc il y a des petits groupes de cette espèce qu'on voit ici comme hivernant dans la zone, donc très très discret. Donc c'est vrai que c'est un oiseau avec lequel la rencontre, et c'est toujours un moment extrêmement magique. Notamment en général, l'oiseau, après s'être envolé, va se reposer un petit peu plus loin et vous regarde d'un air farouche en redressant ses petites aigrettes. Et on voit le regard fixe de l'oiseau, là, vraiment que ça lui donne un air profondément farouche. Donc c'est vrai que moi, c'est une scène que j'ai vécue un certain nombre de fois par ici et voilà, que je suis toujours très content de revivre. Donc c'est vrai que j'invite les personnes qui sont qui sont présentes par ici à faire ce genre de rencontre, c'est toujours un grand moment. Après, il ne faut peut-être pas trop le faire non plus, vu le risque de dérangement sur les oiseaux. Ce que disait Monsieur Béguin, c'est que donc lui, il a passé un contrat avec le groupe ornithologique des Deux-Sèvres, donc la parcelle est contractualisée pour la protection de l'outarde canepetière, qui est susceptible de nicher ici à partir du mois de mai. Et donc là, le terrain reste ouvert sans contrainte particulière, jusque, je crois, à la mi-mai, date à laquelle justement les femelles d'outarde canepetière sont susceptibles de venir nicher au sol dans cette parcelle.
J'habite à côté, en fait, depuis pas très longtemps. Voilà, là, j'ai pas d'excuses, je suis à 10 km. Le plus frappé, dans le côté positif, cette espèce de solidarité et d'engouement qu'on ressent quand on est là au milieu de plein de personnes qui partagent un peu ta vision des choses et sur lesquelles on est bien d'accord. Et voilà, après sur le côté négatif, c'est le côté répressif, effectivement, où on a été gazé à fond, quoi. Même le cortège blanc, qui était dit entre guillemets le cortège plutôt familial, festif, voilà, s'est fait gazer au bout de 100 mètres. On a senti vraiment qu'ils attendaient que ça en fait. Qu'ils attendaient des dérapages et que les conditions ont été faites pour que ça se passe comme ça, je pense. Ben, j'en pense que voilà, s'il y a autant de répression, il faudrait peut-être que les gens se demandent pourquoi. Il y a bien un motif à tout ça, et je pense qu'on en revient toujours au même problème, c'est le problème de la thune, de toute façon, ça tourne autour de ça. Hein. Ouais, c'est assez impressionnant quand ils voient, de voir autant de dispositifs pour ça, pour protéger un trou dans la terre, quoi. Là, on est clairement sur un truc antidémocratique, où ils t'interdisent de manifester, ils veulent même pas t'écouter, ils veulent pas faire de concertation avec les gens qui vivent sur place. Donc voilà, c'est vrai que bon, ben, dans la lutte des classes, il y a ce qu'on appelle les pauvres, voilà. Puis dans un autre genre de lutte, ben, t'as les hommes contre les femmes, où on pourrait se sentir en infériorité. Et non, je pense que c'est vraiment une bonne chose. On parle beaucoup du féminisme en ce moment, et là, ben, c'est une belle. Voilà, on montre aussi qu'on en a. C'est toujours les mêmes qui empathisent, donc on parle de convergence des luttes. Enfin là, on est en plein dedans, quoi. Effectivement, il y avait des gens de tous bords, mais effectivement, voilà, il y a un certain clivage social qui fait que, effectivement, bah, c'est les gens du peuple, hein, qui sont là, ceux qui vivent au quotidien, ceux qui vivent ici au quotidien, ceux qui vont être les premiers à en subir les conséquences dans quelques années. Hein. On a vu l'état de l'été qu'on a eu avec les épisodes de sécheresse, de canicule, de manque d'eau dans certaines régions de France. Je veux dire, l'été prochain, quand on en sera là et qu'ils auront leur bassine remplie et que nous, on se fera amender parce qu'on arrose notre pauvre potager avec 4 patates et 4 fraises et qu'eux pourront puiser dans cette bassine qui est remplie avec l'eau de la terre, quoi, qui est remplie avec l'eau qui appartient à tout le monde et qui va être réservée à une poignée de privilégiés, quoi, qui vont pouvoir continuer à mettre en place leur système qui est pas du tout viable pour l'avenir. Effectivement, ils ont peut-être plus une vision sur le très très court terme pour eux, mais c'est pas notre cas. Moi, j'ai une fille, elle a 5 ans, elle est née ici, elle va grandir ici, donc bon, c'est important. Je l'ai pas emmenée samedi parce qu'on s'attendait un peu à ce genre de... Enfin, je pense pas que c'était sa place. Après, je pense que je vais revenir ce week-end avec elle en vélo pour lui montrer. Enfin, pas au cœur, hein. Je pense qu'à 5 ans, on n'est pas capable de... Donc c'est des choses comme ça, et pourtant, j'ai vu des familles qui étaient venues plein d'espoir avec leurs enfants, des enfants qui se font gazer, c'était assez... J'ai pas regretté de pas l'avoir emmenée.
Alors, je dirais deux choses. Alors, peut-être le jeu du chat et de la souris avec les forces de l'ordre. Quand on était à faire des zigzags au milieu des parcelles, passer au travers des haies, souvent des haies d'ailleurs dont le passage n'était pas facile, avec des clôtures, pas mal d'épineux. Et c'est vrai que voir autant de personnes passer au travers de ces haies, c'est toujours quelque chose de surprenant, d'un petit peu surréaliste. Et la deuxième chose, pour revenir à quelque chose de plus naturaliste, pendant la manifestation de samedi, nous sommes passés au milieu d'une parcelle de colza, et là on a vu un nombre incalculable d'animaux en sortir, un lièvre nous passait entre les pattes, plusieurs chevreuils qui étaient, je pense, tranquillement installés au sol dans le colza, s'enfuir dans plusieurs directions différentes au passage des manifestants, pas mal d'oiseaux un peu plus communs, type perdrix, s'envoler également au passage des manifestants. Donc c'est vrai que quand on regarde ces parcelles de loin, on a l'impression qu'il n'y a rien dedans, qu'il n'y a pas de vie, qu'il n'y a pas d'animaux. Et en fait, c'est une vision qui est un peu fausse, parce que le fait de faire passer un grand nombre de personnes au milieu de ces parcelles, eh bien là, on voit toute une vie discrète qui se manifeste à ce moment-là, dérangée par le passage de tous ces manifestants.
La suite, bah, je ne sais pas trop, hein, d'après ce qui a été dit ce matin. Voilà, l'idéal, ça serait vraiment de trouver une issue pacifique dans le dialogue. Voilà. C'est pas ce qu'on espère, hein, devoir revenir ici tous les week-ends pour se battre, risquer de prendre un coup, ou finir en garde à vue, c'est évidemment pas ce qu'on voudrait. Hein.
La suite, il y avait une conférence de presse tout à l'heure, il y avait des gens qui ont, de Bassine non merci, qui ont dressé un ultimatum vis-à-vis du gouvernement pour qu'il prenne ses responsabilités face à une situation qui ne peut pas durer, ça c'est une réalité. Voilà, c'est que ben, la vague humaine, elle peut très bien se transformer en déferlante.
Bleu de l'eau, Sainte-Soline, octobre 2022. Réalisation, prise de son, montage, Amandine Desdeus.